France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagne à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Thomas Allard à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Pour moi, la philosophie, c'est se poser des questions qui te font réfléchir et des questions intelligentes
qui n'ont pas vraiment de réponse, qui peuvent avoir plusieurs réponses.
Depuis tout le temps, l'homme, il cherche à donner un sens à pourquoi à sa vie.
Il y a des questions qu'on se pose et qu'on ne peut pas forcément tout le temps y répondre. L'homme n'est pas assez intelligent pour ça.
On se pose des questions, on y réfléchit et on dit notre avis.
Et du coup, c'est normal que même 3000 ans avant nous, ils se posaient des questions.
C'est des questions que les philosophes ils doivent y répondre.
Je n'aime pas la philo parce qu'on doit toujours se poser des questions et ça te casse la tête.
En philosophie, si quelqu'un n'utilise pas les mêmes arguments que toi ou propose une idée différente, il n'a pas forcément faux et il n'a pas forcément raison.
Parole d'enfant au Festival des idées, oui, la curiosité est un joli défaut, même si parfois la philo, ça casse la tête, comme l'a dit un des enfants. Deux invités pour parler de la philosophie des enfants. Edwige Chirouter, autrice d'un ouvrage intitulé « À quoi pense la littérature de jeunesse ?» C'est à l'école des lettres. Et Chiara Pastorini, pour 100 questions hautement philosophiques que vous posent vos enfants, publié chez Solar. J'y ai même piqué ce que j'ai dit il y a un instant, la curiosité est un joli défaut. Edwige Chirouter, votre livre est au fond un plaidoyer pour une philosophie vivante, ancrée dans l'expérience du monde et de l'étonnement. Oui. Il faut dire que pour vous, la philo avec les enfants, d'ailleurs, et pas forcément pour les enfants, mais avec les enfants, a été une révolution. Je parle sur un plan personnel.
Oui, absolument. Moi, j'ai fait des études classiques en philo. J'ai été formée au moule universitaire, académique. Et pour moi, la philosophie, c'était d'abord et avant tout travailler sur les grands textes, sur Kant, Spinoza. Puis c'était un exercice silencieux et un exercice aussi d'écriture. Hein, comme les lycéens, ils ont écrit une dissertation ou travaillé sur un commentaire de texte. Et quand j'ai entendu parler pour la première fois, donc il y a 25 ans maintenant, de l'existence d'expérimentation et de recherche sur la philo avec les enfants, j'ai d'abord été sceptique, comme peut-être beaucoup de philosophes.
Déjà, vous faisiez la moue quand on vous parlait de café philo.
Ben oui, parce que c'est vrai qu'on... Est-ce que c'est vraiment de la philo ? Alors évidemment, si philosopher, c'est travailler sur Kant, Spinoza, écrire une dissertation, c'est sûr qu'à 6 ans, il y a une petite dissonance cognitive. Et la chance que j'ai eue, parce que c'est vraiment une chance, ça a changé ma vie, c'est qu'à cette époque-là, au moment où j'entends parler de philo avec les enfants, où je suis un peu sceptique, ben à la maison, moi j'ai une petite fille qui a 4 ans, Adèle exactement, qui a 4 ans, et qui, comme tous les enfants du monde, ben, pose plein de questions. Il y avait les petits bateaux il y a quelques minutes et j'ai des questions qui me sont restées. Quoi. Est-ce que le premier homme avec une maman ? Est-ce qu'on est obligé d'être gentil avec tout le monde ? Pourquoi le monsieur, il est bizarre ? Et je me suis dit que ce que je connaissais intellectuellement, c'est-à-dire la philosophie née de l'étonnement. C'est-à-dire, beaucoup d'étudiants en philo ont lu le livre de Jeanne Hersch, L'étonnement devant le monde. Je le savais intellectuellement. La philosophie née de l'étonnement, mais c'était finalement pas incarné pour moi. Tout d'un coup, je le vois chez ma fille, et je me dis, il y a peut-être quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Et vous êtes tombée dans la marmite.
Et je suis tombée dans la marmite.
Chiara Pastorini, les questions des enfants, on les trouve parfois déroutantes, mais si elles le sont, si elles nous paraissent l'être en tout cas, est-ce que c'est pas parce qu'on ne s'étonne pas assez, nous, adultes ?
C'est-à-dire que je pense que les adultes ont un petit peu perdu cette capacité à s'étonner, à s'émerveiller devant le monde. Et comme déjà Platon nous le disait dans le Tête-à-Tête, c'est dans l'étonnement que la philosophie naît. C'est à partir de cet émerveillement devant les choses qui nous entourent qui naît le questionnement et donc la démarche philosophique. Mm-hmm. Les enfants, eux, ils arrivent dans ce monde et ils s'étonnent de tout. Donc c'est à partir de cette posture-là qu'ils posent leur première question, déjà à partir de 3-4 ans, donc très spontanément et très tôt. Et nous, les adultes, effectivement, en tant que parents, d'abord, on est souvent désemparés face aux questions des enfants parce que ils nous replongent dans ce questionnement enfantin auquel, effectivement, on n'est plus habitué. Donc il faut nous remettre un petit peu dans cette posture-là.
Et, ouais, et les parents, parce qu'il y a évidemment les ateliers dont vous vous occupez et l'une et l'autre, mais les parents, quand ils sont à la maison, ils ont besoin d'aide parfois, et votre guide leur sert énormément.
Je l'espère en tout cas. Oui. Et l'idée, ce n'est pas d'expliquer aux parents quoi répondre aux enfants, mais plutôt comment leur répondre. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment une question de contenu à la question que les enfants posent, mais de posture. C'est-à-dire que j'essaie avec ce guide de nourrir la réflexion des parents pour qu'ils puissent poser les bonnes questions afin que les enfants puissent se forger leur propre réponse.
Peut-on apprendre à penser? C'est notamment une des questions. Je ne sais pas si vous voulez répondre, élève Chiroutère.
Oui, mais d'abord, je pense que tout s'apprend, hein, et que oui, philosopher s'apprend, et peut-être que notre institution l'a un petit peu oublié, justement, en commençant si tard, alors que toutes les autres disciplines, on les commence sans aucun souci à la maternelle, et la philosophie, c'est une seule année, en terminale, des lycées généraux et technologiques, pas professionnels, je le rappelle tout le temps, mais c'est vrai que ça exclut les enfants des classes populaires qui n'ont pas accès à cette seule petite année d'enseignement de la philosophie. Donc l'idée, bien sûr, c'est à la fois de reconnaître l'enfant comme sujet qui se pose ces grandes questions universelles, intemporelles, et d'y prendre au sérieux. Et puis il y a un enjeu aussi politique de démocratiser l'accès à la philosophie en commençant beaucoup plus tôt.
Et que ça permettrait peut-être, si c'était davantage utilisé, de moins creuser les inégalités en fait entre les enfants. Non,
oui, parce que ça s'apprend et que c'est difficile. C'est une formule que j'utilise souvent. C'est pas parce que ce serait facile de philosopher qu'on peut le faire avec les enfants. C'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt. Et Platon, on va reprendre Platon dans la caverne. Et dans cette sortie de la caverne qui peut être un petit peu une métaphore du travail philosophique, il montre bien que c'est un travail qui est difficile, à la fois intellectuellement, parce qu'il ne suffit pas de parler pour philosopher. On va voir qu'il y a un travail intellectuel, une rigueur, une exigence. Et donc, c'est difficile intellectuellement. Mais c'est difficile affectivement aussi. Parce que quand on va philosopher, on va se rendre compte que nos opinions, nos préjugés, nos croyances, elles ne sont pas toujours vraies. Elles sont parfois fausses.
Il faut les mettre un peu à distance.
Il faut les mettre à distance. Il faut accepter aussi la pluralité des points de vue. Il faut accepter une forme de vulnérabilité aussi face à ces grandes questions. Et c'est dur intellectuellement, c'est dur affectivement, et tout ce qui est difficile va demander du temps et de la patience.
J'imagine que c'est aussi ce que vous pensez, Cara Pestani.
Oui, bien sûr. Peut-on apprendre à penser? Je dirais qu'il faut en tout cas apprendre à penser, à passer d'une pensée qu'on peut appeler conditionnée, c'est-à-dire la pensée dans laquelle on baigne depuis qu'on est né. Donc c'est une pensée pleine de préjugés, d'idées reçues, de certitudes. Passer de cette pensée conditionnée à une pensée critique. Kant, dans son « Qu'est-ce que les Lumières ?», parle de sortie de l'état des minorités. Donc parle de pensée critique comme ce qui nous permet de penser par soi-même, finalement. Donc d'éviter d'être toujours accompagné par un tuteur et donc de devenir finalement autonome.
Le professeur Olivier Houdet, il est enseignant-chercheur et psychologue. Il a beaucoup travaillé sur le développement de l'enfant et des neurosciences cognitives. Et c'est une archive qui date de 2021.
Le cerveau est doté d'un lobe, le cortex préfrontal à l'avant, qui est le siège de cet esprit critique, mais il faut l'éveiller. Et je dirais qu'il y a le doute, la curiosité, le regret. Et c'est vrai qu'il faut éveiller durant l'enfance, et en particulier chez les ados, ces trois émotions-là. Sinon, on pourrait s'enfermer. Les réseaux sociaux peuvent aussi enfermer dans un communautarisme, dans des groupes ou des sous-groupes où l'on pense tous de la même façon. Et à ce moment-là, le doute n'existe plus, la curiosité s'éteint et le regret disparaît totalement. Donc il faut à tout moment, et moi je plaide pour une pédagogie du regret, il faut regretter ce qu'on a fait ou ce qu'on aurait pu faire, il faut douter, il faut être curieux. Et ce ne sont pas ces émotions, elles ne sont pas dans le programme scolaire, mais c'est ça, ces émotions-là qui forgent le citoyen de demain dans le monde du numérique, dans le monde précisément du trop d'informations, de la mise en cause de la science, de la vérité, parfois même de la réalité. Donc il faut éveiller ce doute, cette curiosité et ce regret pour une pensée plus solide. Et la pensée plus solide, c'est celle qui est capable de se critiquer elle-même tout en se construisant.
Le doute, la curiosité et le regret, moi je voudrais qu'on s'arrête sur le doute. Est-ce qu'il est souhaitable qu'un enfant doute ?
De toute façon, il doute. C'est pas comme si on allait provoquer en lui, enfin, évidemment, quand il vit, enfin, les enfants vivent dans le même monde que les adultes. En fait. Donc ils savent que la mort existe, que la violence existe, que le bonheur, que l'amour, des choses positives aussi, que l'injustice existe. Et ce qui est important, donc, c'est de les accompagner, comme n'importe quel être humain. Et j'entendais ce que disait Olivier Houdet, mais en fait, c'est aussi vrai pour les adultes. Cette nécessité de cultiver le doute, de cultiver le regret, de cultiver aussi notre capacité à penser par nous-mêmes. C'est pas propre à l'enfance, mais par contre, il faut pas exclure les enfants de cet apprentissage et de ce cheminement.
Chiara Bastorini.
Oui, je pense que le doute est essentiel pour toute démarche de raisonnement, de recherche aussi dans la science, bien sûr. Et les enfants aussi, évidemment, doutent, il faut les accompagner. Après, il y a des doutes qui permettent effectivement de remettre en question des idées reçues, des préjugés qui sont entre guillemets positifs, qui font évoluer la pensée. Et il faut les distinguer des doutes radicaux où on remet tout. Oui. En question, évidemment, l'enfant a besoin quand même de certitude, a besoin de ses appuis sur lesquels évoluer. Mais à partir de là, c'est en fait à partir de ces certitudes-là qui sont importantes et qui rassurent l'enfant, qu'il peut poser ses doutes.
Oui, il y a une question, une phrase que j'ai notée dans votre livre, Edwige Schirrhuter, c'est que le moment philo, c'est pas un moment où tout le monde dit ce qu'il pense. Au contraire, c'est un moment où chacun est invité à penser ce qu'il dit. Ça change complètement la donne.
Oui, exactement. Et quand on anime des ateliers philo, moi je suis formatrice d'enseignants, j'enseigne à l'INSPE, donc je propose à des jeunes enseignants qui se mettent à pratiquer les ateliers philo d'avoir une petite valise avec des outils qui permettent aux enfants de visualiser ce qui va se jouer dans l'atelier philo. Et notamment, on a une petite loupe parce qu'on va aller examiner nos idées. Quand on dit quelque chose, eh bien, on va l'examiner, on va voir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est juste, si c'est injuste, si c'est tolérable, si c'est intolérable. Ce n'est pas un atelier de parole libre. Bien sûr, l'exercice de la philosophie, c'est un exercice d'exigence intellectuelle. C'est pour ça que je disais aussi que c'était difficile affectivement. Donc, il faut bien l'enrober avec beaucoup, beaucoup d'humour, de ludique. On parle peut-être de la littérature de jeunesse qui permet de mettre une distance affective et que ce moment qui est difficile, ben, il soit aussi ludique et joyeux. Et la joie au sens presque spinoziste du terme, où on se sent grandir dans ces ateliers. Mais la petite loupe, par exemple, c'est un moment, c'est un outil qui permet aux enfants de visualiser qu'on va examiner ce qu'on dit, qu'on a le droit de se tromper, qu'on a le droit de changer d'avis. Et c'est donc une posture philosophique, en fait, qu'on travaille avec eux.
Moi, j'adore la couverture de votre livre.
Moi aussi.
Mais les formidables. Parce qu'en fait, ils sont tous en rond.
Oui.
Les enfants et il y a deux enseignants, je crois, où il y en a plus.
Il y a des adultes, en fait. C'est vrai que la pratique de la philo avec les enfants, telle qu'elle s'est développée depuis plus de 50 ans, un petit peu partout dans le monde, c'est une pratique qui se joue à l'école et qui est une pratique de coopération intellectuelle. Alors moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On pense jamais tout seul, mais on dit toujours penser par soi-même. En fait, on pense toujours avec les autres. Et les autres, bon, ça peut être les parents, bien sûr, la famille, mais c'est aussi les camarades, c'est le maîtresse, le maître, la maîtresse. Et puis, c'est les œuvres qu'on va rencontrer. Et cette idée qu'on va donner sens au monde, il y a ces grandes questions qui sont tellement difficiles, mais tellement importantes. On va se coopérer intellectuellement pour trouver des repères. Et là, je rejoins tout à fait Chiara. C'est pas parce qu'on doute qu'on va se retrouver dans un abîme existentiel. Avec les enfants, encore plus, ils ont besoin de repères.
C'est
il y
ça.
Aura des repères. Voilà. Il n'y a pas une réponse unique, mais il y a des réponses. Et on va essayer de construire justement comment dans l'humanité on a pu répondre à cette question-là et quelles sont les réponses, encore une fois, à laquelle on peut ou pas adhérer.
D'où aussi l'importance de ce guide, aller plus loin, toujours dans chacun des thèmes abordés, pour aider les parents.
Oui, pour aider les parents,
les
adultes à poser après les bonnes questions pour faire cheminer l'enfant. Et c'est vrai, comme disait Edwige tout à l'heure, la dimension du collectif est quand même fondamentale dans ce type de pratique d'atelier avec les enfants. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'enfant de se décentrer, donc de se confronter avec des points de vue différents du sien et du coup d'apprendre petit à petit aussi le respect de la différence. Donc c'est une forme aussi de développement de la tolérance, si on veut. Donc, question philosophique, on a plusieurs réponses possibles. Comme on disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire tomber dans un relativisme absolu. Ça ne veut pas dire que toutes les réponses se valent. Pourquoi ? Parce que pas tous les arguments se valent. Et donc, la loupe dont Edwige parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous permet, effectivement, selon différents critères, d'évaluer aussi les arguments. C'est là que on pense ce qu'on dit. Hein, on analyse bien ce qu'on dit pour ensuite évoluer.
Edwige Schirrutter, Chiara Pastorini, vous êtes toutes les deux les invitées de l'heure philo. Devenir meilleur, c'est une chanson.
Il nous reste du temps pour parler. Il nous reste devant du temps pour réparer. Est-ce qu'on va essayer? Est-ce qu'on peut y arriver? Il nous reste devant encore un long parcours. Il nous reste du temps avant de faire le tour. L'amour et ses nuances, ses éclairs, sa patience. Six mois, un an ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur. Il nous reste la nuit, des refrains, des mélodies, encore quelques envies, des étés, des trains partis, avant de tout jeter par terre. Laisse-moi du temps pour mieux faire. Peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur. Six mois, un an ou peut-être quelques heures. Fatigue au coin des yeux, cet air un peu hagard, mais toujours ce point lumineux. En amour, on marche sur du verre. Laisse-moi du temps pour mieux faire. Six mois, un an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi.
Devenir meilleur, c'était Ours sur France Inter. Il est didacticien de la philosophie, professeur émérite à l'université Paul-Valéry de Montpellier et il s'appelle Michel Tozzi.
Alors il n'y a pas d'a priori ou de préalable pour commencer à réfléchir. Un enfant peut commencer à réfléchir quand il commence à parler, puisque parler, c'est déjà donner forme au monde, quoi. Et donc on peut commencer, dès que l'enfant commence à parler, à le faire, disons, réfléchir, et en organisant progressivement, disons, un cursus dans lequel cette réflexion dans et par le langage va être de plus en plus, disons, organisée. La moyenne section, mais la grande section, et surtout la grande section de maternelle, me semble le bon moment, si vous voulez, donc pour commencer. On croit que la pensée, effectivement, c'est de l'effort, c'est du labeur, on se prend la tête, comme disent certains, etc. Bon, c'est vrai d'une certaine manière. Mais dès lors qu'il y a une communauté de recherche qui s'attelle à réfléchir à un problème important, dès lors que ces sujets donc les concernent, à ce moment-là, ce qui est important, c'est le sujet lui-même. Et donc, ils vont s'investir, disons, dans ce sujet-là, et ils vont développer, c'est ça les conséquences que ça a, une capacité, disons, de réflexion qui est parfois surprenante pour nous autres, donc, les adultes. En ce qui concerne, donc, les élèves en difficulté, la discussion à visée philosophique est très importante parce que ça va les réintégrer dans une certaine estime de soi. Ce sont des élèves qui ont perdu confiance dans le langage, qui ont perdu confiance dans la relation avec les autres, qui ont perdu la confiance, finalement, en eux-mêmes. Et le fait de se sentir autorisé à parler et à dire des choses qui seront considérées importantes sur les principaux problèmes de la condition humaine, ça les remet debout, ça les restaure dans leur dignité.
Michel Tozzi, que vous écoutez avec une certaine émotion, Edwige Chiroutère.
Ah bah oui, Michel a été mon directeur de thèse et je lui dois beaucoup, je l'embrasse, il nous écoute sûrement.
Mais ça a été un précurseur.
Absolument, un vrai pionnier de ce qu'on appelle la didactique. Il a été un des tout premiers dans le monde francophone à s'intéresser les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire enseigner, quels sont les gestes professionnels et comment on imagine expérience de pensée, un jour la philosophie et dans les programmes en tant que discipline à l'école maternelle. Bah, vraiment, extrêmement concrètement, comment on fait, sur quel support on s'appuie, quels sont les gestes professionnels, comment on peut former les enseignants. Et il a été absolument déterminant dans le développement de la recherche, mais aussi des pratiques dans le monde francophone.
Et peut-être dans votre vie à vous, absolument. Puisque vous êtes coordinatrice de la première chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants. C'est une chaire qui existe depuis assez peu de temps.
Depuis 2016, en fait. Oui, oui, on était très très fiers de pouvoir créer cette première chaire UNESCO sur le sujet. Et ça fait longtemps qu'on travaillait avec l'UNESCO, parce que l'UNESCO défend depuis très très longtemps aussi la démocratisation d'accès à la philo dès le plus jeune âge. Et ils ont voulu que ce soit une université française qui la porte. Et on a beaucoup d'honneur à l'Université de Nantes, effectivement, de porter ce projet.
Et vous avez beaucoup d'enseignants que ça intéresse ?
Énormément. Enfin, sur le terrain, il y a énormément de demandes. Alors, on pourrait presque dire, et c'est un petit peu malheureux, mais plus le monde va mal, et plus on a une demande des acteurs et actrices du terrain pour développer ces pratiques-là, plus la démocratie est en danger, par exemple. Et nous, on est contactés par plein de pays dans le monde, en Afrique, mais absolument partout. Et c'est vrai que ce que nous renvoient les acteurs de terrain, c'est aidez-nous à développer des pratiques qui permettent de développer l'esprit critique, la coopération intellectuelle, le dialogue interculturel, parce que c'est pas une recette magique, ça se saurait, mais nous pensons, et l'UNESCO porte ces valeurs-là, à la fois de démocratie et d'humanisme, que la philosophie a son rôle à jouer pour la défense de cet idéal émancipateur.
Mais Chiara Pastorini, c'est même un peu bizarre, surtout à vous écouter, mais même de toute façon, pourquoi est-ce qu'on attend la terminale pour aborder des sujets qui sont quand même essentiels en une seule année, comme vous le disiez tout à l'heure, Edwige, c'est pas dans tous les lycées. Si on est en lycée technique, on n'a pas de philo
professionnel,
et d'avoir tout à absorber comme ça en quelques mois. Sans aucune préparation, en fait. Et puis, à un âge où on n'est pas forcément suffisamment désinhibé, je ne sais pas comment il faut dire, pour poser des questions.
Oui, il faudrait commencer beaucoup plus tôt, comme on l'a dit, dès la maternelle. Comme disait justement Michel Tozzi, moyenne, grande section de maternelle, c'est le bon âge pour commencer. De toute façon, on apprend aux enfants à compter, à lire, à écrire très tôt. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas les accompagner dans ce questionnement qui est très spontané dès le plus jeune âge. Ça permettrait effectivement de les outiller, de leur donner les outils nécessaires pour forger leur esprit critique, donc mieux s'orienter dans leur existence, faire
peut-être
des choix.
Peut-être être meilleur dans d'autres matières aussi.
Bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle un transfert de savoir. Mm-hmm. Donc, au-delà de l'atelier philo, on développe des compétences de raisonnement. Et pas que, parce qu'on part toujours d'esprit critique, mais dans ce type d'atelier, on développe aussi la pensée créative, la pensée bienveillante, on apprend à travailler avec les autres, à coopérer. Il y a tout un travail aussi sur les émotions. Donc, c'est un travail sur sur l'enfant en tant que sujet, de façon assez, assez globale, et qui permettrait aux enfants, justement, d'être finalement plus conscients et de faire des choix plus responsables. Donc, en gros, de devenir des citoyens plus éclairés.
Alors, c'était le bac philo, là, en début de semaine, lundi, reportage de Sonia Princey, à la sortie de l'examen.
C'était le plus simple, je trouvais.
J'ai pris la vérité aussi. J'ai mis un peu de temps à réfléchir, à savoir quel sujet j'allais prendre, mais j'ai dit que la vérité n'était pas toujours convaincante. J'ai dit qu'on pouvait douter de certaines vérités. Je sais même plus ce que j'ai mis.
Est-ce que t'as parlé de la théorie scientifique là, avec les quatre trucs là ? Théorie, expérimentation.
Ah, critère de réfutabilité.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais.
T'as parlé de ça ?
Bah oui.
Ah, carré alors. Moi aussi, j'ai parlé de ça.
En fait, c'est le truc qu'on a le plus travaillé, je pense.
Et donc, tu penses que tu t'en es bien sorti ?
En théorie, je vais dire que oui, mais bon, j'ai pas envie de me porter l'œil, donc on va rien dire. On verra bien le résultat final le 4 juillet.
Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est que ça s'appelle un peu bachoter. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la portée des questions n'est peut-être pas la bonne, là. Oui, bien sûr, tant mieux s'il l'aborde. Mais bon, sur la vérité, mais c'est un gouffre, la vérité.
Ben, on pourrait presque dire que tout est fait pour que ça marche pas très très bien, en fait, l'enseignement de la philo, parce que on voit bien que ces questions sont difficiles, les auteurs sont difficiles, l'exercice écrit qu'on leur demande, une dissertation, un commentaire de texte, c'est difficile et ils doivent y parvenir en quelques mois, parce qu'on parle d'années, mais en fait.
Oui, c'est même pas bien sûr.
C'est quelques mois et l'année du bac avec l'échéance de l'évaluation, etc. Donc, bien sûr que si on veut, encore une fois, démocratiser l'accès à cette discipline pour à la fois développer des compétences intellectuelles dont on a parlé, mais aussi cette joie aussi de s'emparer, ben il faut du temps. Et je fais souvent la comparaison aussi avec un instrument de musique, hein, pour savoir jouer du violon et avoir la joie, etc.
Tout à l'heure, il y avait le téléphone sonne sur la musique.
Exactement, mais il faut du temps et il faut de la patience. Donc rien n'est magique, rien n'est inné aussi. On ne peut y parvenir que par, encore une fois, beaucoup de patience et de régularité.
La joie aussi, ça s'apprend.
Ça s'éprouve.
Ça s'éprouve. On apprend à l'éprouver. Voilà, disons les choses comme ça.
Oui, les émotions, je pense qu'il y a peut-être une façon universelle de les éprouver, mais pas une façon universelle de les exprimer. Donc, on le voit qu'il y a des différences si on change de contexte, de culture. Il suffit de penser, par exemple, à nos réactions face à un deuil. Dans nos sociétés occidentales, c'est complètement différent par rapport à d'autres sociétés. Donc, ça aussi, c'est une question que j'aborde dans ce guide. Est-ce que l'émotion, ça s'apprend ? Donc, toujours, j'essaie de donner des pistes de réflexion.
D'aller plus loin.
Et il y a toujours un petit encadré qui donne des indications de ressources, comme des podcasts, des dessins animés, des albums de littérature jeunesse, des films, etc. Parce qu'on peut utiliser des supports qui ne sont pas forcément conçus pour faire de la philosophie, pour s'améliorer dans la réflexion et dans le raisonnement.
Mais alors justement, la littérature, venons-en à la littérature. Philo et littérature sont a priori complémentaires. Il faut, de Platon à Kant, hein, on a choisi quand même de cloisonner tout ça. Et pourtant, Edwige Schirotter, à vous lire, on voit bien que la littérature, elle est indispensable à l'apprentissage en général et elle est complètement imbriquée à la philosophie.
Alors moi, je pense que c'est une des fonctions les plus fondamentales des récits, en fait, c'est de nous permettre de comprendre le monde. Hein. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est par la fiction qu'on comprend le réel. Et ça, c'est une fonction dont parle beaucoup Paul Ricoeur. Je me suis beaucoup appuyée sur ce
travail. C'est ça. Qui lui-même, alors vous racontez qu'il il était intervenu
dans la classe de son arrière-petite-fille pour animer des ateliers de philosophie à partir des mythe platonicien. Et d'ailleurs, moi, quand j'anime des ateliers avec des enfants, j'adore partir d'un mythe dans la République pour leur montrer aussi qu'est-ce que c'est que l'histoire de la philosophie. Et c'est l'anneau de Gigès que vous connaissez peut-être, mais c'est un berger qui découvre une bague qui a le pouvoir de le rendre invisible. Et donc là, on va créer une expérience de pensée. Moi, j'adore travailler sur les expériences de pensée. C'est imagine, vous avez la bague pendant une journée. Évidemment, ils font tout ce qui est interdit. Et à partir des exemples, on peut réfléchir pourquoi c'est interdit ? Est-ce que ce serait bien de vivre dans un monde où il n'y aurait aucune loi, aucune règle ? Si on avait la possibilité, finalement, de transgresser les règles sans être pris, est-ce qu'on le ferait quand même ? Donc ça fait des ateliers absolument formidables sur la fonction des lois et puis évidemment le bien et le mal et la morale. Donc les expériences de pensée, ça existe depuis toujours dans l'histoire de la philosophie. Platon avec ses mythes, Descartes, on en trouve absolument partout. Et c'est vrai que c'est une médiation extrêmement riche pour prendre aussi une distance affective par rapport aux questions qu'on va travailler.
Et puis de plus en plus maintenant, on a quand même aussi une littérature pour la jeunesse qui est extraordinairement riche. Et alors j'ai appris en vous lisant que la première, j'ai posé la colle d'ailleurs à une très très bonne amie très cultivée cet après-midi qui savait pas, la première librairie spécialisée en littérature enfantine, elle était à Londres et c'était en 1750.
Ouais.
Qui était une époque aussi où l'enfant n'était pas considéré du tout comme il l'a été par la suite.
Non, ça commençait tout juste. Hein. On est quand même à la fin du XVIIIe siècle. Il y a Rousseau qui va poindre son petit nez, là, ici, pour révolutionner. On parle de révolution copernicienne. Et c'est vrai que la philosophie avec les enfants, ça s'appuie aussi sur une certaine représentation de l'enfant et sur un pari d'éducabilité, comme on dirait. C'est-à-dire que l'enfant est un sujet, l'enfant est une personne, et l'enfant a besoin de grands récits. Aussi pour comprendre le réel, il n'y a pas de différence fondamentale entre les enfants et les adultes. Nous posons des grandes questions et nous avons besoin de récits pour y répondre.
Et un enfant n'a pas une pensée simpliste.
Non, absolument pas. Et au contraire, on en parlait tout à l'heure avec les Donnements dans le monde, ils nous posent des questions extrêmement complexes et ils sont tout à fait capables, en étant accompagnés, rien n'est inné, hein, tout relève évidemment d'une médiation culturelle, d'un apprentissage et d'un accompagnement avec les adultes, mais ils sont capables de faire des distinctions qui sont extrêmement fines. Moi, je suis toujours extrêmement étonnée dans les ateliers de philosophie, quand on passe un mois sur un concept, de voir qu'ils font des distinctions qu'on peut faire en classe terminale. Avec des élèves qui ont 7-8 ans, la différence entre le légal et le légitime, entre vivre et exister, entre obéir et se soumettre, ils sont absolument capables de comprendre ces distinctions qui sont fondamentales.
Mais la vérité, on parlait tout à l'heure de la vérité. La vérité d'un texte, en fait, elle n'est pas unique, elle est multiple.
Elle relève de l'interprétation. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi, dans mon travail. C'est notamment comment ces albums qui existent depuis une bonne soixantaine d'années et qui aussi reposent sur une certaine représentation de l'enfant qui peut lire autre chose que Martine et Tchoupi. C'est très bien, Martine et Tchoupi, on en a besoin. La littérature, elle sert aussi à nous divertir, à oublier la réalité.
Ça peut même être un refuge. Ouais. Enfin, voilà, exactement. Mais c'est aussi une expérience de pensée, en quelque sorte.
Oui, et ce qui est assez nouveau au XXe siècle, c'est qu'on va avoir des auteurs et des autrices qui vont offrir aux enfants des récits qui, à la fois, abordent des questions complexes qu'on ne voyait pas forcément aborder avant littérature de jeunesse et qui vont aussi les aborder surtout de façon extrêmement poétique. Il n'y a pas la réponse, il n'y a pas une leçon de morale explicite qui est donnée, mais tout va être subtil, tout va être dans les plis du texte. Et là, on retrouve un travail qui est fondamental en littérature en général, c'est le travail interprétatif.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de Kant quand lui... Bon, elles vont partir, elles vont quitter le studio toutes les deux en même temps. Non, ne me laissez pas. En disant que quand il disait que le texte philosophique ne pouvait pas faire appel ni à l'esthétique, ni au sensible.
Ah ouais, alors Kant, il instaure vraiment cette différence fondamentale entre la rationalité et le sensible. Et il y a une phrase que je cite dans le livre d'Emmanuel Kant que je trouve absolument épouvantable, où il parle de Rousseau et il dit « Il faut que je lise et relise Rousseau jusqu'à ce que la beauté disparaisse et enfin je peux comprendre la beauté du texte. » Comme si beauté et rationalité ne pouvait pas s'unir.
Vous, Karad, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que Edwige vient de dire? Parce que sinon, moi, j'ai une question après pour vous. Allez-y d'abord. Allez-y.
J'aimerais bien, oui, effectivement, réagir sur cette dichotomie qui traverse les siècles entre la rationalité et le sensible, c'est-à-dire le corps. Depuis les origines de la philosophie, effectivement, le corps est entendu comme un tombeau de l'âme, depuis Platon. Donc, il faut se débarrasser des sens, de la perception, pour atteindre les idées, la vérité. Et moi, dans mes ateliers, et notamment dans les ateliers qu'on mène avec le projet des Petites Lumières, au contraire, on
les
met
petites
en place...
Les Petites Lumières, c'est génial.
Oui, c'est un projet que j'ai fondé en 2014. Et nous, justement, notre méthode, qu'on a appelée holistique, se base justement sur le rôle du corps dans l'émergence de la pensée. C'est-à-dire qu'on passe par des pratiques corporelles et notamment artistiques, le dessin, le théâtre, l'expression corporelle, la peinture, etc., pour réfléchir autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'enfant dans sa globalité, corps, esprit, et puis de replacer le corps au cœur des processus de raisonnement. Donc c'est une méthode, évidemment, qui est très inspirée par John Dewey ou Maria Montessori, donc les novateurs des pédagogies actives, donc des pédagogies où l'action, le mouvement et l'expérience jouent vraiment un rôle fondamental. Donc, Évidemment, le sensible, la perception et le corps plus en général sont fondamentaux pour accéder aux concepts et au raisonnement.
Mais tout à l'heure, vous avez grimacé toutes les deux quand on a évoqué Kant. Mais sur ce sujet-là, il ne s'agit pas évidemment de rejeter Kant, mais Nietzsche alors. Lui, quand il dit, là, j'imagine que vous êtes d'accord, que le discours philosophique, c'est ni plus ni moins qu'une fiction, même le discours philosophique.
Les frontières sont tellement difficiles en fait à délimiter et poreuses. Alors bien sûr, nous on connaît la frontière qui est disciplinaire, parce qu'il y a les cours de philosophie et puis les cours de littérature. Et en tout cas, moi dans mon travail, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que la littérature, c'était vraiment un lieu, on parlait de lieu tout à l'heure, hein, dans lequel on peut se réfugier pour justement vivre des expériences de pensée, des histoires d'amour, des dilemmes moraux qu'on vivra jamais dans le réel, mais qui vont justement nous permettre de répondre à des questions fondamentales qui sont posées dans l'existence.
Bruno Bettelheim, le grand pédagogue et psychothérapeute américain, mais d'origine autrichienne, il est connu dans le monde entier pour ses travaux sur les enfants psychotiques et les enfants autistes. Et il a écrit, notamment, parce qu'il a écrit beaucoup, beaucoup de livres, un livre intitulé « Psychanalyse des contes de fées », qui est paru il y a déjà un certain temps, en 1976, dans lequel il passe au tamis. Alors, il y a Blanche-Neige, il y a La Belle et la Bête, et puis il y a Cendrillon.
Alors, l'enfant se demande pourquoi s'enfuit-elle. Alors, le prince était amoureux d'elle la première fois. Alors l'enfant comprit, pas dans son conscience, mais dans son inconscience, que Cendrillon ne veut pas être choisi par ses habits beaux ou les bijoux, mais ça n'ira pas. Il faut que le prince le voie comme elle est vraiment, dans son état dégété, et que le prince fait des efforts de la trouver. C'est trop facile dans le bal. Il n'y a pas une vie heureuse si le prince croit qu'elle est toujours beau. Et on n'est pas toujours beau dans toute la journée, toute la vie. Mais le prince vient, il faut le voir et le voir comme elle est vraiment. Et il faut que le prince choisisse la personne et pas les habits.
Bruno Bettelheim. Et le conte de fées, au fond, c'est l'exemple emblématique de ce que la littérature peut apporter à un enfant.
Oui,
vous en parlez de Bettelheim.
Oui, parce que 1976, ça a été une date importante parce que c'est surtout le succès de la psychanalyse des contes de fées de Bettelheim qui a fait prendre conscience à beaucoup d'éducateurs au sens extrêmement large que les enfants ont besoin de grands récits parce que c'est surtout ça qui va être retenu de la lecture de Bettelheim. Les enfants, comme les adultes, c'est exactement pareil, ont besoin de fiction à la fois pour se divertir, pour se vider la tête, pour s'évader, mais ils ont besoin de récits aussi pour comprendre le réel. Et c'est surtout cette leçon-là qui a été retenue par les éducateurs et qui a fait que les parents, les enseignants ont réclamé des livres. Réclamer les contes dans leur de tradition orale, dans leur version originale, et pas les versions adaptées et censurées par Walt Disney. Et puis, qui a pu avoir en littérature de jeunesse une vague d'auteurs, je pense à Tommy Angerer, à Claude Ponty, à Grégoire Solotareff, qui ont justement pu publier ces ouvrages-là dont on parlait tout à l'heure, qui abordent des questions difficiles et de façon subtile, intelligente et poétique.
Et c'est un peu comme quand on lit des histoires aux enfants le soir, par exemple. Je sais pas, il y a peut-être pas tous les parents le font et c'est vraiment dommage. Les enfants le réclament très vite. Donc en fait, ils peuvent réclamer des ateliers de philo de la même manière, non, Chiara Pastorini?
Oui, c'est-à-dire que nous, on le voit régulièrement quand on a un groupe sur la longue durée qui se familiarise à cette pratique. Après, il y a justement une joie de partager, de partager des idées et aussi d'aborder des questions qui leur tiennent à cœur et qui n'ont pas forcément la possibilité d'aborder, par exemple, en famille avec les parents. Donc c'est pour ça que démocratiser la philosophie et peut-être l'introduire dans les programmes d'école dès le plus jeune âge permettrait à ces enfants-là, à tous les enfants en fait, de façon assez, je ne veux pas dire ludique, mais en tout cas joyeuse, de progresser et d'aborder des questions qui sont importantes pour eux et qui peut-être resteraient sans réponse, ou en tout cas sans possibilité d'être partagé avec des pairs.
Vous êtes bien sur France Inter, et c'est l'heure philo que vous écoutez. Our Day Will Come, c'était Amy Winehouse. C'est Daniel Salnave, je crois que vous citez, Edwige Chiroter, dans votre livre, qui parle de l'expérience littéraire, mais on pourrait élargir ça à l'expérience philo. C'est comme une expérience amoureuse, c'est une illumination.
Ah, c'est une joie, dirait Spinoza, et c'est ça qu'on essaye
encore, oui, une joie.
En tant qu'enseignant, ce qu'on a envie, enfin c'est pour ça que je suis devenue prof de philo, c'est que j'ai envie que de multiplier cette possibilité de rencontre avec ce que j'ai vécu moi quand j'étais lycéenne à la première heure de cours de philo de terminale et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire quoi, et on a l'impression de sortir du cours ou de l'atelier en ayant grandi. C'est vraiment cette puissance là que décrit Spinoza comme la joie. Le monde et n'est plus tout à fait le même, et je ne suis plus tout à fait la même.
Mais encore, ce que vous racontez, ça veut dire que vous avez eu un bon prof de philo en terminale.
Oui, j'ai fait une rencontre. Hein. Je pense que vraiment, Marie-Hélène Gauthier-Muselec, que je salue, peut-être ouais, qu'elle m'écoute aussi.
C'est bien de saluer ses anciens
oui,
profs.
Oui, oui, parce que c'est vrai qu'elle a été, ça a été une vraie rencontre absolument déterminante. On en fait dans la vie comme une rencontre amoureuse qui change la vie. Elle a changé la mienne. Et c'est vrai que c'était pas un cours facile. Elle avait commencé un cours sur la mort, sur Heidegger, mais
elle a commencé fort.
Ouais, mais ça m'a changé parce que cette différence entre vivre et exister, puisque dit Heidegger sur la mort, sur le on, etc. Moi, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment résonné, et je pense que vraiment ça a changé la personne que je suis.
Et vous, Chiara Pastorini, vous vous souvenez de vos premiers cours de philo?
Moi, j'ai fait le lycée en Italie.
En Italie,
donc en Italie, effectivement, on a 3 ans. De philosophie, mais voilà, ce n'est pas tout à fait comme en France, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'histoire de la philosophie. Donc, de façon assez chronologique, hein, on commence des présocratiques pour arriver jusqu'à la philosophie contemporaine. Et c'est vrai que c'est rare qu'on nous demande ce qu'on pense sur un sujet. Hein. Donc, en Italie, il faut plutôt répéter ce que les philosophes, ce que les grands philosophes de la tradition ont dit. Donc c'est dommage.
Oui, mais ce qui est pas plus mal aussi, c'est de s'y raccrocher à un moment donné, quand même.
Oui, bien sûr.
D'ailleurs, c'est ce que vous faites.
Tout à fait, mais je pense qu'il faudrait quand même commencer, comme on le fait dans ce type d'atelier avec les enfants, par des questions qui tiennent à cœur aux enfants, que les enfants ont envie d'aborder. Et puis, bien sûr, nourrir la réflexion avec aussi des références aux classiques, mais il ne faut pas que ça censure la pensée critique, la pensée par soi-même.
Le philosophe italien Giorgio Agamben.
Je crois qu'il y a un lien commun dont il faut se libérer au sujet de la philosophie, et c'est que les philosophes seraient au fond quelqu'un qui poserait la question qu'est-ce que une chose, qu'est-ce que telle chose, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, hein. C'est-à-dire que les philosophes seraient un sot qui pose la question « qu'est-ce qu'au sujet de n'importe quoi ?» Il me semble que ce n'est pas du tout ça que fait les philosophes. La philosophie ne s'occupe pas, à mon avis, de l'essence, de qu'est-ce qu'une chose. Elle s'occupe plutôt, encore une fois, de l'existence de cette chose, du fait qu'une chose existe, que telle chose existe, que la pensée existe, que le monde existe. C'est toujours de l'ordre de l'existence, la question philosophique, et jamais de l'ordre de l'essence.
La philosophie ne s'occupe pas de l'essence, mais de l'existence d'une chose. Chiara Pastorini.
Alors, oui, c'est une question assez compliquée. Tout a commencé toujours avec Platon, hein, avec cette notion d'idée, hein, idée qui serait les essences des choses. Effectivement, alors, je ne pense pas qu'il y ait un monde ultérieur, un monde autre que notre monde qui nous entoure, hein, ce qui existe, effectivement. Donc, il ne faut pas aller chercher derrière les choses une essence, comme pouvait le penser Platon ou Kant, évidemment. Ça n'empêche pas pour autant de se poser cette question-là. Il faut voir ce qu'on entend par essence. Mais quand on peut aussi se dire que les choses sont, de certaines façons, et qu'ils sont parce qu'ils existent. C'est-à-dire que je suis plutôt pour une vision assez horizontale, effectivement, où l'essence et l'existence, en fait, coïncideraient.
Edwige Roten.
Oui, le travail philosophique, c'est un travail sur les mots aussi et sur le langage. Donc, c'est aussi quand on parle de vérité, quand on parle de liberté, quand on parle d'amour, de quoi on parle exactement. Donc, c'est aussi un travail de conceptualisation. Mm-hmm. Et ce que disait Ngombène là, ça me fait penser, quand il dit pas le philosophe n'est pas un sot, ça me fait penser à Deleuze. Deleuze, au contraire, qui disait le philosophe, c'est celui qui fait l'idiot. Mm-hmm. Et d'une certaine façon, on retrouve dans la figure de l'idiot la figure de l'enfant et de l'étonnement devant le monde.
Et réussir sa vie, ça veut dire quoi? C'est une des questions que vous posez dans le livre.
Voilà, c'est une des questions effectivement que j'aborde dans ce livre. Et je fais une distinction entre ce qu'on considère comme une réussite sociale, en tout cas selon des critères imposés par la société. Par exemple, réussir sa vie serait avoir un bon travail, une belle maison, une famille, des enfants, etc. Et puis une réussite, au contraire, ressentie d'un point de vue subjectif, donc qui ne tient pas compte hein, du jugement, si on veut, du jugement des autres. Mmh. Et je fais référence justement à ce propos à Lao Tzu, hein, qui disait que il ne faut pas se fier, en tout cas, donner trop de prendre trop en considération l'approbation des autres pour éviter d'en devenir prisonnier.
Edwige Roten, il y a une chose aussi dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais pas tellement, c'est du temps, parce qu'il faut du temps pour dire, pour configurer, pour comprendre, pour éclairer, alors qu'on ne cesse de dire aux enfants « dépêche-toi ».
Exactement, c'est Hannah Arendt qui disait que les démocraties ont besoin d'oasis de pensée, et je crois que les ateliers de philosophie sont des formes d'oasis où on fait un petit peu pause par rapport à l'urgence du quotidien, où on prend un temps collectivement. On parlait de la loupe tout à l'heure, on examine les idées, mais parfois on allume aussi une bougie pour dire aux enfants, on va rentrer dans un lieu, dans un refuge, et pour prendre le temps de réfléchir tous ensemble à cette grande question.
À quoi pense la littérature de jeunesse, point d'interrogation, les enfants des questions des histoires? Edwige Roten s'est publié à l'École des Lettres. Merci à vous, Chiara Pastorini, merci à vous également. 100 questions hautement philosophiques que vous posent vos enfants, c'est chez Solar. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup.